Onzième couplet. L'auteur. 1. Le temps d'atteindre le petit centre commercial de la ville de Bridgeton, un supermarché, une laverie et un drugstore étrangement grand, proportionnellement, Roland, comme Eddie l'avait senti. Pas seulement le chant, mais aussi la puissance qui se rassemblait. Elle les emportait vers le haut comme une sorte d'ascenseur fou et merveilleux. Eddie se surprit à penser à la poudre magique de la fée Clochette et à la plume magique de Dumbo. C'était comme se rapprocher de la rose, sans ressembler vraiment à ça. Rien dans cette petite ville de Nouvelle-Angleterre n'évoquait la sainteté ou la sanctification, mais il s'y passait quelque chose, et quelque chose de puissant. Sur la route qui les amenait depuis East Stoneham, suivant les panneaux indiquant Bridgeton, de petite route de campagne en petite route de campagne, Eddie avait aussi senti autre chose. L'aspect incroyablement précis de ce monde. Les sous-bois verts des forêts de pins étaient d'une justesse qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant, dont il n'avait même jamais soupçonné l'existence. Les oiseaux qui s'ébattaient dans le ciel estival le laissaient le souffle coupé jusqu'aux moineaux les plus ordinaires. Même les ombres sur le sol semblaient posséder une épaisseur bien à elles, une couche de velours, comme si on pouvait les toucher, les ramasser, si on le désirait. Eddie finit par demander à Roland s'il le ressentait lui aussi.
« Oui, » répondit le pistolero, « je le sens. Je le vois, je l'entends. Eddie. Je le touche même. »
Eddie acquiesça, lui aussi. Ce monde était réel au-delà de toute réalité. Il était anti-Vahadash. C'était ce qu'il avait inventé de mieux. Et il se trouvait exactement au cœur du rayon. Eddie le sentait qui les portait comme un fleuve s'engouffrant dans une gorge, droit vers une cascade.
Mais j'ai peur. Reconnut Roland. J'ai le sentiment qu'on approche du centre de tout, de la tour elle-même peut-être bien. C'est comme si, après toutes ces années, la quête était devenue pour moi une fin en soi et l'achèvement en est effrayant.
Eddie hocha la tête. Il pouvait bien comprendre ça. Lui aussi avait peur, aucun doute. Si ce n'était pas la tour qui diffusait cette force prodigieuse, alors qu'il s'agissait de quelque créature surpuissante et terrible, comparable à la rose, mais pas identique. Une jumelle de la rose? C'était possible. Roland regarda dehors, scrutant le parking et les gens qui allaient et venaient sous le ciel estival parsemé de gros nuages dérivant lentement, apparemment inconscient du monde qui autour d'eux chantait avec force, inconscient du mouvement des nuages qui suivaient toujours la même voix ancestrale dans les cieux, inconscient de leur propre beauté. Le pistolero dit
« Je pensais autrefois que le pire serait d'atteindre la tour sombre pour trouver la pièce du sommet vide. Le dieu de tous les univers, mort. » Ou inexistant, tout simplement. Mais à présent, je suppose qu'il y ait quelqu'un là-haut, Eddie. Quelqu'un d'omnipotent qui se trouverait être...
Il ne put terminer. Eddie lui vint en aide. Quelqu'un qui ne serait autre qu'un truand de plus, c'est ça? Un dieu non pas mort, mais juste imbécile et malveillant. Roland opina de la tête. Ce n'était pas exactement ce dont il avait peur, mais il se dit qu'Eddie n'était pas tombé loin. « Comment ce serait possible, Roland, avec ce qu'on ressent ?» Roland haussa les épaules, comme pour dire que tout était possible. « Quoi qu'il en soit, quel choix avons-nous ?»«
Aucun, » dit Roland d'un ton morne. « Toutes choses servent le rayon. »
Quelle que fût cette force immense et chantante, elle semblait venir de la route qui partait du centre commercial vers l'ouest, en direction des bois. La route du Kansas, à en croire le panneau, ce qui rappela à Eddie Dorothy et Toto et Blaine le mono. Il enclencha la première de leurs Ford d'emprunt et démarra. Son cœur battait à tout rompre, avec une lenteur et une force éloquente. Il se demanda si Moïse avait ressenti le même genre de choses en approchant du buisson ardent dans lequel apparaissait Dieu. Il se demanda si Jacob avait ressenti le même genre de choses en trouvant à son réveil un inconnu dans son campement, un inconnu à la fois rayonnant et magnifique, l'ange contre lequel il devrait lutter. Il se dit que c'était probablement le cas. Il était certain qu'une autre partie de leur périple était sur le point de toucher à sa fin, une autre réponse les attendait. Dieu vivrait sur la route du Kansas, dans la ville de Bridgeton, dans le Maine. Ça avait l'air fou, dit comme ça, mais ça ne l'était pas. « Ne me foudra pas maintenant, » pensa Eddie en tournant vers l'ouest. « Je dois retrouver ma chérie, alors, s'il te plaît, ne me foudra pas, qui ou quoi que tu sois. »« Bon Dieu, j'ai tellement peur, » dit-il. Roland lui prit la main et la serra brièvement. 2. À 5 kilomètres du centre commercial, ils débouchèrent sur un chemin de terre qui coupait à travers la pinède à leur gauche. Il y avait d'autres chemins écartés, qu'Eddie avait croisés sans même ralentir, s'en tenant à une vitesse de croisière de 50 kilomètres à l'heure, mais à ce dernier croisement, il choisit de s'arrêter. Les deux vitres avant étaient baissées. Ils entendaient le vent dans les arbres, l'appel grincheux d'un corbeau, le ronronnement pas si lointain d'un hors-bord sur fond de grondement de moteur de la vieille Ford. Hormis les quelques 100 000 voix qui chantaient en une harmonie grossière, c'étaient les seuls sons autour d'eux. Le panneau indiquant le tournant mentionné seulement « allée privée ». Malgré tout, Eddie hochait la tête.
« C'est là ?»«
Oui, je sais. Comment va ta jambe ?»«
Ça fait mal. T'inquiète pas pour moi. On va vraiment le faire ?»«
Il le faut, » répondit Roland. Tu as raison de nous amener ici. Ici se trouve la seconde moitié de ceci. Il tapota le papier dans sa poche, celui octroyant la propriété du terrain vague à la Tête Corporation.
Tu penses que ce King est le jumeau de la rose?
Tu dis vrai? Roland te sourit en entendant l'expression qui lui était venue naturellement. Eddie avait rarement vu sourire plus triste. Nous avons adopté les us de la Cala, pas vrai? D'abord Jake, puis chacun d'entre nous. Mais ça va nous passer.
Il faut poursuivre la route, fit Eddie.
Ce n'était pas une question. Si fait, et elle sera dangereuse. Pourtant, c'est peut-être ici le plus dangereux. On y va?
Une minute. Roland, tu te rappelles quand Susanna nous a parlé d'un certain Moses Carver?
Un négocieux, ce qui veut dire un homme d'affaires. C'est lui qui a repris l'entreprise de son père quand Cy Holmes est mort, c'est exact?
Ouais, et il était aussi le parrain de Suze. Et il disait qu'on pouvait lui faire pleinement confiance. Tu te rappelles la colère qu'elle a piquée quand Jake et moi avons suggéré qu'il avait peut-être volé de l'argent à la compagnie?
Roland hocha la tête. Je fais confiance à son jugement. Et toi?
Moi aussi.
Si Carver est effectivement honnête, on pourrait peut-être lui confier certaines des tâches qu'on doit accomplir dans ce monde.
Rien de tout ça ne semblait très important, comparé à la force qu'Eddie sentait croître tout autour de lui. Pourtant, il croyait que ça l'était. Il pourrait bien n'avoir qu'une seule chance de protéger la rose et d'assurer sa survie pour plus tard. Il fallait qu'ils le fassent bien. Et Eddie savait que, pour le faire bien, il leur faudrait forcer la volonté du destin. Du cas, en un mot.
Suze dit que les industries dentaires Holmes valaient 8 à 10 millions quand tu l'as kidnappé de New York, Roland. Si Carver est aussi bon que je l'espère, la boîte doit en valoir 12 ou 14 à l'heure qu'il est. »
C'est beaucoup.
De là,
répondit le jeune homme en tendant sa main ouverte vers l'horizon. Et Roland hocha la tête.
Ça paraît aberrant de parler d'utiliser les profits d'un brevet dentaire pour sauver l'univers. Pourtant, c'est bien de ça que je parle. Et l'argent que la petite souris lui a laissé n'est sans doute qu'un début. Microsoft, par exemple, tu te rappelles que j'ai mentionné ce nom à Tower?
Roland fit oui de la tête.
Moins vite, Eddie. Calme-toi, je te prie.
Désolé.
Eddie inspira profondément.
C'est à cause de cet endroit, du champ, des visages. Est-ce que tu vois les visages dans les arbres, dans les ombres?
Je les vois très clairement.
Tout ça me rend gentiment fou. Mais je te demande juste un peu de patience. Ce que je propose, c'est de faire fusionner les industries dentaires Holmes avec la TED Corporation, puis de profiter de ce que nous savons de l'avenir pour en faire l'une des compagnies les plus riches de l'histoire mondiale. Des revenus de taille à concurrencer ceux de Sombra Corporation, peut-être même de North Central Positronics.
Roland haussa les épaules, puis leva la main, comme pour demander à Eddie comment il pouvait parler d'argent en présence d'une force aussi prodigieuse, se déversant le long du rayon et à travers eux, leur faisant dresser les cheveux sur la tête, leur faisant fourmiller les sinus, faisant apparaître dans l'ombre de chaque arbre un visage attentif. Comme si une multitude s'était réunie ici pour les regarder jouer une scène cruciale de leur pièce.
« Je sais ce que tu ressens. Pourtant, c'est important, » insista Eddie. « Crois-moi. Supposons par exemple qu'on se développe assez vite pour racheter North Central Positronics avant qu'ils prennent une envergure pareille dans ce monde. Roland, on serait en mesure de les détourner comme on détournerait le fleuve le plus gigantesque rien qu'en donnant un coup de pelle à la source, là où il n'est encore qu'un petit ruisseau. »
C'est alors que les yeux de Roland se mirent à briller.
« On les rachète, » dit le pistolero. « On les détourne de leur but pour qu'ils ne servent plus la cause du camp du roi cramoisi, mais la nôtre.
Ouais, ça pourrait se faire. »
Que ça puisse se faire ou non, il faut pas qu'on oublie qu'on ne joue pas seulement pour 1977 ou 1987, d'où je viens. Ou 1999, où Suze est allé.
Dans ce monde-là, pensa soudain Eddie, Calvin Tower était peut-être mort et Aaron Dipno l'était certainement, et leur dernière scène dans la pièce intitulée « La tour sombre », dans laquelle ils sauvaient Donald Callahan des griffes des frères Hitler, jouée depuis longtemps. Balayés de la scène tous les deux, dans la clairière au bout du sentier, avec Gacher et Hoots, Benny Slightman et Suzanne Delgado. Cala, Callahan, Suzanne, Susanna. Et l'homme tic-tac, et même Blaine et Patricia. Roland et son cas-tête passeraient aussi par cette clairière tôt ou tard. Et à la fin, s'ils étaient fantastiquement chanceux ou d'un courage suicidaire, seule la tour sombre tiendrait. S'ils pouvaient tuer North Central Positronics dans l'œuf, peut-être pourraient-ils sauver tous les rayons qui s'étaient brisés. Et même s'ils échouaient, il suffirait peut-être de 2 rayons pour maintenir la tour en place. La Rose de New York et un homme du nom de Stephen King dans le Maine. Eddie n'avait aucune preuve rationnelle que tout ça eût le moindre sens, mais son cœur le croyait.
Roland, on joue pour l'éternité ici.
Roland ferma la main et frappa doucement du poing sur le tableau de bord poussiéreux de la vieille Ford de John Cullum. Il hocha la tête.
Ils peuvent faire n'importe quoi de ce terrain vague, t'en as conscience? N'importe quoi. Un immeuble, un parc, un monument. L'Institut National Gramophone, du moment que la rose reste là. Ce type Carver, il peut légaliser la TED Corporation, peut-être en collaboration avec Aaron Dipno,
Oui,
confirma le pistolero.
Je l'aime bien, ce Dipno. Il a un visage sincère.
Eddie était du même avis. De toute façon, ils peuvent rédiger des papiers légaux pour protéger la rose. La rose doit rester là pour toujours, quoi qu'il advienne. Et j'ai comme l'impression que c'est ce qui va se passer. En 2007, 2057, 2525, 3700, bon sang, en l'an 19000, je pense qu'elle sera toujours là. Parce qu'elle a beau être fragile, je la crois aussi immortelle. Il faut qu'on le fasse tant qu'on en a encore l'occasion, parce que ce monde est le monde clé. Dans ce monde-ci, on n'a aucune chance de pouvoir tailler encore un peu si la clé ne tourne pas dans la serrure. Dans ce monde-ci, pas de seconde chance.
Roland te réfléchit un instant, puis pointa le doigt en direction du chemin de terre qui menait dans les bois. Dans une forêt de visages attentifs et de voix qui chantaient. Un harmonium de tout ce qui donnait de la valeur et du sens à la vie, de ce qui se rattachait à la vérité, de ce qui reconnaissait la suprématie du blanc. Et l'homme qui vit au bout de cette route est dit. Si c'est bien un homme.
Je pense que c'en est un, pas seulement à cause de ce qu'a dit John Callum. C'est ce que je ressens ici.
Eddie se tapota la poitrine, juste au-dessus du cœur. Moi aussi.
Tu dis vrai, Roland?
Si fait. Est-il immortel, lui aussi, d'après toi? Parce que j'ai vu beaucoup de choses au cours des ans, et j'ai entendu plus de rumeurs encore. Mais jamais d'un homme ou d'une femme pouvant vivre pour l'éternité.
Je crois pas qu'il ait besoin d'être immortel. Je crois que tout ce qu'il lui faut, c'est écrire la bonne histoire, parce que certaines histoires sont immortelles.
La compréhension alluma une petite flamme dans les pupilles de Roland.
Enfin, pensa Eddie, enfin il voit.
Mais combien de temps lui avait-il fallu à lui pour voir et ensuite pour admettre ? Dieu sait qu'il aurait dû s'en rendre compte plus tôt, avec toutes les merveilles qu'il avait vues. Pourtant, il avait buté sur la dernière marche. Constaté de visu que le père Callahan était tout droit sorti d'un roman intitulé Salem n'avait pas suffi à lui faire franchir le pas. Ce qui avait finalement précipité les choses, ça avait été d'apprendre que Co-op City se situait dans le Bronx, et pas à Brooklyn. Dans ce monde-ci, du moins. Et c'était le seul qui importait. Peut-être qu'il n'est pas chez lui, suggéra Roland, alors qu'autour d'eux le monde entier attendait. Peut-être que cet homme qui nous a créés n'est pas chez lui.
Tu sais bien que si.
Roland acquiesça, et la vieille flamme luisait dans ses yeux, la lueur d'un feu qui ne s'était jamais éteint, celui qui avait éclairé sa route le long du rayon depuis Gilead. Alors allons-y. Démarre, lança-t-il vivement, d'une voix rauque. Démarre au nom de ton père, s'il est Dieu, notre Dieu. Je le regarderai dans les yeux et lui demanderai le chemin de la tour.
Tu ne voudrais pas lui demander le chemin vers Susanna d'abord ?
Dès qu'il eut prononcé cette phrase, Eddie la regretta et pria pour que le pistolero la laisse passer. Ce que Roland fit. Il se contenta de faire mouliner les doigts restants à sa main droite.
« Allez, allez !»
Eddie enclencha la première et tourna dans le chemin poussiéreux. Il les mena au cœur d'un grand champ qui semblait les traverser comme un souffle de vent, les transformant en des entités aussi impalpables qu'une pensée, ou qu'un rêve, dans l'esprit d'un dieu endormi. 3. Au bout de 300 mètres, la route se divisait en deux. Eddie prit sur la gauche, bien que le panneau pointant dans cette direction indiquât « Roden ». Non King. La poussière soulevée par leurs roues collées au rétroviseur, le champ faisait un doux brouhaha se déverser en lui comme un alcool. Il sentait ses cheveux se hérisser et tous ses muscles trembler. Si Eddie devait dégainer à la seconde, il se dit qu'il lâcherait sans doute ce maudit engin.
et même s'il réussissait à le garder en main, viser lui serait impossible. Il ne comprenait même pas comment cet homme qu'il cherchait pouvait vivre si près du son et réussir à manger ou à dormir sans parler d'écrire des histoires. Mais bien entendu, King n'était pas seulement proche du son. Si Eddie ne se trompait pas, King était la source du son.
Mais s'il a une famille, comment font-ils ? Et même s'il vit seul, comment font les voisins ?
Une allée, sur la droite, et Eddie, arrête-toi. C'était bien Roland, pourtant sa voix était méconnaissable. Son bronzage de la cala ressemblait à une fine couche de peinture étalée sur un visage d'une pâleur cadavérique. Eddie s'arrêta. Roland trouva à tâtons la poignée de la portière, ne parvint pas à l'actionner, se hissa à hauteur de la vitre jusqu'à la taille. Eddie entendit le cliquetis de sa boucle de ceinture contre la gaine chromée de la portière et se pencha pour vomir sur Logan. Lorsqu'il retomba en arrière dans son siège, il avait l'air à la fois épuisé et exalté. Il roula des yeux et le regard qu'il posa sur Eddie était d'un bleu immémorial et étincelant.
En route.
Roland, t'es sûr que... Roland fit son moulinet avec les doigts, regardant droit devant lui à travers le pare-brise poussiéreux de la Ford.
Avance, avance, au nom de ton père.
Eddie reprit la route. 4. C'était le genre de maison que les agents immobiliers appellent un ranch. Eddie n'en fut pas surpris. Ce qui le surprit, en revanche, ce fut la simplicité des lieux. Puis il se rappela que tous les écrivains n'étaient pas forcément riches, ce qui devait être d'autant plus vrai des auteurs jeunes. Une coquille heureuse avait fait un malheur dans le milieu des bibliomaniaques, mais King ne devait pas toucher de commission sur ce genre de boulette, ni de droit d'auteur, si c'était bien l'expression d'usage. Pourtant, la voiture garée dans l'allée, une Jeep Cherokee visiblement neuve, avec une chouette bande sur l'aile, à l'indienne, suggérait que King ne mourrait pas exactement de faim quand même. Une cabane en bois trônait au milieu de la cour, entourée de jouets en plastique jonchant le sol. Leur vue fit vaciller le cœur d'Eddie. Une des délicieuses leçons qu'il avait retenues de leur aventure à la Cala, c'est que les gosses, ça compliquait les choses. Et ici vivaient des gosses petits, à en juger par les jouets. Et voilà que débarquent chez eux deux types avec des durs calibres. Des types qui, au moins à l'heure actuelle, ne sont pas tout à fait bien dans leur tête. Eddie coupa le moteur de la Ford. Un corbeau poussa un cri. Un hors-bord, plus gros que celui qu'ils avaient entendu auparavant, d'après le bruit, se mit à ronronner. Au-delà de la maison, un soleil éclatant faisait miroiter l'eau bleue, et les voix chantaient « Comme à Comala ». Un bruit métallique annonça que Roland venait d'ouvrir sa portière. Il sortit en se tordant un peu plus que nécessaire. Mauvaise hanche, arthrite sèche. Eddie lui-même avait l'impression d'être debout sur des bouts de bois. « Tabby, c'est toi ?» La voix provenait du côté droit de la maison. Et précédant l'homme qui venait de parler, apparut une ombre au sol. Jamais Eddie n'avait été saisi d'une telle peur mêlée de fascination à la simple vue d'une ombre. Il se dit avec une certitude absolue « Voilà que s'avance mon créateur. Le voilà si fait, je dis vrai. » Et les voix reprirent de plus belle. Comme à la 2-3, c'est lui, le voilà. Tu as oublié quelque chose, chérie? Le dernier mot traîna un peu en longueur, comme John Cullum l'aurait prononcé. Chérie! Et c'est ainsi qu'apparut le propriétaire de la maison. C'est ainsi qu'il apparut. Il les vit et s'immobilisa. Les voix se turent instantanément et même le bruit de moteur du hors-bord disparut.
L'espace d'une seconde, le monde entier resta en suspens sur ses gonds. Puis l'homme se retourna et se mit à courir. La seconde d'avant, cependant, Eddie eut le temps de voir l'expression d'horreur qui s'était peinte sur son visage. Il les avait reconnus. Roland bondit derrière lui en un éclair, comme un chat après un oiseau.